Bonjour chers amis, quelle joie d'avoir pu célébrer aujourd'hui le repas du Seigneur. La dernière fois que j'avais terminé la troisième partie de la prédication, je suis le pain de vie, et j'avais dit pour la troisième partie, bon appétit. Et j'espère que nous avons pu prendre avec appétit ce que représente le sacrifice du Christ pour nous. Mais nous continuons à cheminer sur ces identités, sur ces déclarations de Jésus. Je suis. Ouvrons, si vous voulez, les Écritures maintenant pour un texte très court, encore un « Je suis » de Jésus dans l'Évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12. Je suis la lumière du monde. Ça n'apparaît pas. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Dans quelles circonstances le Seigneur Jésus a-t-il prononcé cette parole étonnante, extraordinaire? C'est à l'occasion d'une fête juive que l'on appelle la fête des cabanes. Et le Seigneur Jésus, d'après le contexte de l'évangile de Jean, se tenait sur le parvis du temple, un lieu assez grand, et à l'occasion de la fête des cabanes étaient installés deux grands candélabres bien élevés. Ils représentaient tout simplement la colonne de feu que Dieu avait donnée pour aider à faire ce voyage dans le désert. La colonne de feu la nuit et aussi la nuée. Le brouillard, le jour, pour les guider. Et peut-être que Jésus, qui se trouve là, sur le parvis du temple d'Hérode, il voit ces deux candélabres, il les regarde, oui, mais moi, je suis la lumière du monde. Je voudrais faire cet exposé en quatre points. Tout d'abord, associer la lumière de Jésus à la vie qu'il nous donne. Ensuite, associer la lumière à la notion de vérité. En troisième lieu, nous pouvons suivre vraiment Jésus, qui est la lumière du monde, et ainsi nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Et enfin, quatrième partie, nous allons associer la lumière qu'est Jésus à la croix et à la résurrection de Jésus. Ça va? Tout d'abord, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il pense à la vie. Ça nous fait penser aussi à la première étape de la création dans le livre de la Genèse, où Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu fit quelque chose d'assez extraordinaire. Il va séparer comme une coupure la lumière des ténèbres. Et nous est toujours dit d'ailleurs, Dieu vit que cela était bon, bon, bon. Combien c'est bon la lumière, n'est-ce pas? Alors, la lumière est toujours associée à la vie. La vie de la création. S'il n'y avait pas eu de lumière, s'il n'y avait pas eu les astres, il n'y aurait pas eu de vie, naturellement. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons également que la lumière est associée à la présence de Dieu qui donne la vie. Elle représente dans ce sens-là une certaine révélation de Dieu. quand Moïse s'est approché de Dieu en voyant ce buisson ardent dans le livre de l'Exode, eh bien, il vit ce buisson de feu, de lumière. Et j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, pour la conduite du peuple d'Israël dans le désert, cette fameuse colonne de feu. Pour eux, c'était vital, vital. Donc, associé à la vie. Et il y a une remarque qu'il nous faut faire aussi, et que fait beaucoup l'évangéliste Jean dans son prologue. Il dit, « En lui, en Jésus, résidait la vie, et elle était la lumière du monde. » Il parlait bien sûr du Christ. Mais il nous dit aussi, « Dieu est lumière, et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Ça, c'est dans son épître de Jean. Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Dieu est vie. Dieu est vie et lumière. On le voit très bien. Et dans le psaume 36, verset 10, peut-être va-t-il apparaître maintenant, « Car chez toi est la source de la vie, c'est dans la lumière que nous voyons la lumière. » Chez toi, Dieu, la source de la vie, bien sûr, on l'a vu, hein. C'est dans la lumière que nous voyons la lumière. Plus nous regardons la lumière, la face de Dieu, plus nous voyons et nous sommes éblouis par la lumière. Il est très important quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». C'est vraiment synonyme de la vie pour le monde. Deuxième chose, la lumière est associée à la vérité. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ça veut dire qu'il y a donc une incompatibilité entre la vérité et le mensonge et l'erreur. Il y a incompatibilité entre même, je dirais, entre la vérité avec un grand V et toutes ces petites vérités ou demi-vérités. Déjà, avec les demi-vérités, nous sommes dans les ténèbres et dans l'obscurité. Donc, c'est vrai, quand Jésus dit « je suis la lumière du monde », il veut dire « je suis la vérité de Dieu ». Et ça signifie aussi que ça rejoint ce « je suis de l'Éternel au buisson ardent, je suis celui qui suis ». Il est tout simplement Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est. Il est la révélation ultime de Dieu. Dans le passé, il y avait la révélation faite directement, d'une autre manière, mais beaucoup plus cachée, à Abraham, à Moïse, à plein d'hommes et de femmes de Dieu. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Et c'est là qu'on est en pleine lumière de ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Et sans prétention, Jésus peut dire en ce sens, « Je suis la lumière du monde » parce qu'il est la révélation du Dieu qui est lumière. « Dieu est lumière », dira Jean aussi, « et il n'y a point en lui de ténèbres. » Jésus est donc la lumière du monde. Dans un autre texte, on retrouve la même expression, mais dans un autre contexte également, l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, « Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Quand il veut dire qu'il est un certain temps dans le monde, il parle de cette lumière qu'est sa personne incarnée dans le monde. C'est dommage que les pharisiens n'ont pas vu, que les opposants n'ont pas vu, que ses ennemis n'ont pas vu qu'il était la lumière du monde pendant cette période-là. Bien plus encore qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, il est toujours pour nous la lumière du monde. C'est un point qu'il est difficile à communiquer aux personnes qui ne connaissent pas Jésus. Très difficile. Je suis la lumière du monde. Parce que nos interlocuteurs vont nous dire, mais on trouve de la lumière chez Bouddha, on trouve de la lumière aussi dans le monde musulman, on trouve la lumière également dans tous les syncrétismes qui existent. Mais là, c'est quelque chose d'absolu de pouvoir communiquer et dire, j'ai trouvé Jésus qui dit, je suis. Il ne dit pas, je suis une des lumières, je suis la lumière du monde. Et tant que nous n'acceptons pas cette réalité de ce « je suis », nous restons quelque part dans les ténèbres. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a reçu lui-même en tant que révélation la lumière du Dieu Saint, il nous donne la vie et il nous donne d'être dans la vérité. Ça, c'est la conclusion de ces deux points. La lumière associée à la vie, la lumière associée à la vérité. Il est bien la lumière qui éclaire notre vie. Il donne une vraie vie. En effet, il faut se garder de donner à ces mots, lumière et vérité, une compréhension purement intellectuelle. Intellectuellement, beaucoup de gens vont le saisir, le comprendre, même dans nos milieux évangéliques. Mais il y a plus que cela. Ça, car Jésus, pour Jésus, s'est toujours mis en relation avec la vie, c'est-à-dire en relation vivante avec lui et son esprit. Maintenant, si nous revenons à ce « je suis préalable », vous avez remarqué la deuxième partie de la phrase, si on peut remettre encore, Jean 8, 12. Ça va venir. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Suivre Jésus. J'en arrive à cette partie-là. Cette affirmation suppose que le monde n'a pas du tout la lumière. Le monde est dans les ténèbres. Et pour ne pas marcher dans l'obscurité et vivre ou s'accommoder de ces ténèbres, suivons Jésus, la lumière. C'est la vision dans ce verset, on pourrait dire, d'un sentier obscur, et qui petit à petit, au fur et à mesure qu'on l'emprunte, il s'éclaire, parce qu'il y a une lampe, et cela nous permet, avec cette lampe élevée, de vaincre l'obscurité, de suivre la lumière. C'est Jésus. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus, la lumière du monde? Vous avez réfléchi à cela? Je voudrais répondre en deux fois. D'abord, ça commence par le fait que nous ouvrons les yeux. Imaginez une lumière et que nous restons les yeux fermés, bouchés. À quoi servirait-elle cette lumière-là? Nous ouvrons les yeux. Il y a eu des moments dans notre vie où nous avons ouvert les yeux. Comme un petit enfant qui découvre la vie, comme le petit bébé. Au bout d'un certain temps, il ouvre les yeux. C'est difficile au début. Et il découvre ce monde merveilleux, la tendresse de sa maman, des bruits, des odeurs. Il ouvre les yeux. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Pour vraiment suivre Jésus et ne pas marcher dans les ténèbres, commençons par ouvrir des yeux d'enfant. Accepter qu'il est seul la lumière du monde. Il y a un texte qui va apparaître maintenant, j'espère que Serge va le trouver tout de suite. C'est l'évangile de Matthieu, exactement. Chapitre 6 et suivant. Vous le voyez, il est question des yeux. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Vous voyez toujours cette notion de lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps sera plongé dans l'obscurité. D'accord ? Alors Jésus va conclure, si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu ? Jésus, pour expliquer cette notion, nous dit qu'il nous faut avoir des yeux en bonne santé, ouverts. Et physiquement, c'est vrai aussi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été opéré de la cataracte, c'est que vraiment, mon œil droit pour voir au loin n'était pas en bonne santé. Il était malade, je voyais mal. Et encore maintenant, j'ai du mal à m'habituer à ces nouvelles lunettes, et c'est difficile. Et puis il y a d'autres maladies des yeux. Puis il y a des yeux qui ne fonctionnent plus du tout, sur le plan physique. Eh bien, Jésus veut nous dire que c'est vrai aussi sur le plan moral, sur le plan spirituel. Si nos yeux sont en mauvaise santé ou sont malades, jamais nous pourrons voir Jésus qui est la lumière. Alors, chers frères et sœurs, où en sont vos yeux ? Si nous portons des lunettes, c'est quelque part, il y a une certaine infirmité dans nos yeux. Mais qu'en est-il de nos yeux spirituels ? Ouvrons-les comme un petit enfant qui découvre le monde. Ouvrons-les comme un enfant spirituel éclairé par la lumière de Jésus. Je suis la lumière du monde. Donc, ouvrir d'abord les yeux et ensuite suivre, bien sûr, puisqu'il est question de suivre les enseignements de Jésus. Suivre les enseignements de Jésus conformément à sa lumière et confions-lui toute notre vie. Tous les jours, nous décidons, nous suivons Jésus. À peine avez-vous mis les pieds hors de votre lit le matin, ça serait bien de dire aujourd'hui, j'ouvre les yeux et je suis coûte que coûte Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est la lumière et que nous sommes dans un monde de ténèbres. C'est cela, suivre Jésus. Je ne vais pas insister là-dessus. À tel point que Jésus pourra dire aussi, en s'adressant cette fois-ci à ses disciples, vous êtes quoi ? Vous êtes la lumière du monde. C'est l'évangile de Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que nos yeux sont tellement ouverts et nos yeux sont tellement fixés sur la lumière qu'est Jésus que cette lumière, elle est en nous et nous devenons à notre tour comme disciples la lumière du monde. Je n'oserais pas dire à quelqu'un « Je suis la lumière du monde » puisque Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Par contre, je pourrais dire, mais Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et le fait d'avoir les yeux fixés sur cette lumière, il y a un phénomène, en quelque sorte, de brillance qui rejaillit de nous-mêmes. Nous sommes la lumière du monde. Par rapport à ces notions de vie, et par rapport à ces notions de vérité que j'ai exprimées tout à l'heure. Et le disciple devient lumineux, rayonnant. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous dit au chapitre 2 de cet épître, au verset 15, « Dans notre humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Vous le voyez le verset ?« En portant la parole de vie. » Être la lumière du monde, c'est en même temps aussi que réfléchir à la lumière de Jésus, porter la parole de Jésus, qui est la parole de vie. Quatrième point, sur lequel j'aimerais m'arrêter maintenant, la croix de Golgotha, ce lieu unique en son genre, aussi bien géographiquement que spirituellement, c'est vraiment le lieu de la projection parfaite de la lumière de Dieu. Si nous venons au pied de la croix, il y a une projection de lumière parfaite, sainte, qui vient de Dieu. Tout d'abord, c'est une projection de lumière sur l'ennemi horrible qui a voulu que Jésus soit crucifié, c'est Satan, et que tout se termine à la croix. Mais regardez et réfléchissons à cet aspect-là. L'apôtre Paul encore nous dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, « Là, à la croix, il a désarmé toute autorité, toute puissance, les donnant publiquement en spectacle. » Le diable n'aime pas être mis en spectacle. Il aime agir d'une façon cachée. Mais la croix, ça a été vraiment un spectacle total de ce mal, de ce péché, de ses inventions, de ses coups méchants du diable. Oh, certes, il s'est servi des soldats romains. Oh, certes, il s'est servi des pharisiens arrogants qui provoquaient Jésus. Oh, certes, il s'est servi du traître Judas. Mais tout cet ensemble de choses, c'est vraiment une projection sur le péché, sur les desseins de l'ennemi, qui se prétend l'ange de lumière. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus l'a livré publiquement en spectacle. Il a été mis en plein jour. Et il y a une deuxième chose qui a été mise en plein jour. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est la lumière du monde, et ça correspond aussi à la croix. C'est notre péché. En plein jour. Plus nous nous approchons de la croix et plus nous nous rappelons les souffrances de Jésus et plus nous comprenons qu'il est mort pour nous, plus nous découvrons que c'est à cause de notre péché qu'il a subi tout ça. S'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu besoin de la croix. Il n'y aurait pas eu besoin de la passion de Jésus. On a du mal à comprendre la gravité du péché. Même les péchés des petits chrétiens ont coûté pour Jésus cette mort, ce sacrifice sur la croix. Cela est bien exprimé dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 21. Merci. Celui qui était innocent de tout péché, c'est Jésus qui est allé à la croix. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Une des anciennes versions secondes dit qu'il a été fait péché pour nous sur la croix. Alors, la conclusion à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Mais c'est horrible ça. C'est horrible. Qui de vous me convaincra de péché, pouvait-il dire à ses adversaires ? Quand il marchait sur la terre de Palestine, le juste, l'obéissant, le pur, l'agneau, sans tache. Et à la croix, il y a une projection horrible sur le péché de l'homme et notre péché. C'est la lumière de Dieu sur notre vie. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut comprendre quand Jésus lui dit « Je suis la lumière du monde ». Réfléchissons à cela. En troisième lieu, la projection de la croix est en rapport avec la résurrection de Jésus. Jésus a vaincu la mort. Jésus a réglé la question du péché. Et seule la croix nous donne cet éclairage-là, nulle part ailleurs. Et c'est tellement beau de lire cela. Par exemple, dans la première épître de Corinthiens, ça ne va pas apparaître là. La victoire totale sur la mort, elle a été remportée. Et Paul de dire, mais ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ou ton dard, selon les versions ? La projection de la croix de la résurrection, c'est la projection de la victoire. D'accord ? Sur la mort, sur le péché. C'est la projection d'un Dieu qui veut à tout prix, depuis toute éternité, il le veut, depuis la chute, que l'être humain soit réconcilié avec lui. Et cette réconciliation, nous la trouvons qu'à la croix et à la résurrection. Dieu s'est obstiné tout au cours de l'histoire, celle qui est bien renfermée dans la Bible, à parler de l'alliance, de la réconciliation, du contact qu'il veut avoir avec l'être humain pécheur. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 19, « Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, écoutez bien la suite, sans tenir compte de leurs fautes. » Quand je vous disais que Jésus est la lumière du monde, n'avais-je pas raison d'y apporter aussi l'éclairage de la croix et de la résurrection? Éclairage sur les manigances de l'ennemi, le méchant, l'hostile, l'éclairage sur notre péché, l'éclairage sur la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Il est vraiment la lumière du monde dans ce sens-là. Et il a raison de dire « Je suis la lumière du monde. Quiconque veut bien me suivre ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On le remet ce verset-là, Serge, si tu veux bien. On va le réciter tous, l'apprendre par cœur. Il réapparaît. L'évangile de Jean, verset 8, verset 12. Ça vient. Peut-être n'avons-nous même pas besoin du verset. Allons-y. Je suis quiconque veut me suivre ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. J'ai fini. Il y en a qui sont contents. Non, mais soyons reconnaissants, nous souvenant de ce que ça veut dire quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Qu'il soit tout au cours de cette semaine, plus que jamais, la lumière du monde pour nos vies, pour que nous, à notre tour, nous puissions vraiment en action, en parole, en acte, être pour ce monde vivant dans les ténèbres, la lumière du monde, à notre tour. Que c'est beau la lumière. Que ferions-nous s'il n'y avait pas de lumière? C'est Dieu qui a séparé la lumière des ténèbres. Cette séparation, elle n'est pas seulement dans la création, elle est aussi dans la rédemption. C'est ça qu'il faut faire. Attention. Toujours Dieu veut séparer parce qu'il est saint et parce qu'il est pur.